Écoute. Bonjour à toutes et à tous. Le mois de juin est particulier pour ce qui concerne le patrimoine de pays, que l'on appelle encore le patrimoine vernaculaire ou bien le patrimoine de proximité. En effet, ce mois-ci, comme chaque année, au niveau national et au niveau de notre Bourgogne-Franche-Comté, auront lieu le dernier week-end de juin, notez bien, les 27, 28 et 29 juin, les journées du patrimoine de pays. Elles intéressent toute la Bourgogne-Franche-Comté et vous pourrez prendre connaissance des lieux de ces manifestations sur Internet en cliquant sur « Journée du patrimoine de pays 2025 en Bourgogne-Franche-Comté ». Rien de plus simple. Je voudrais aujourd'hui vous faire partager l'importance que revêt pour nous tous ce patrimoine qui vit sans que nous nous en rendions toujours bien compte. Au cours de nos émissions, nous avons mis en valeur des patrimoines très différents comme la cité de Pême, la visite de la maison Niepce, inventeur de la photographie, les maisons du Brionnais, mais aussi l'histoire à travers le miroir des princes et le château de Sully et bien d'autres, la musique et les chorales, les arts également, par des émissions sur l'âge du bronze ou des créations d'œuvres d'art par un sculpteur renommé. Ce patrimoine nous rend l'indicible service de donner de la consistance à notre vie. Mais quelle serait-elle si ce patrimoine venait à disparaître? Que ferions-nous? Et pourtant, c'est ce qui se passe à Gaza ou en Ukraine, en Afghanistan, avec la destruction des Bouddhas par les talibans, en Syrie, avec le dynamitage de la merveilleuse cité de Palmyre, conséquence de tous ces conflits qui voient disparaître des témoignages archéologiques millénaires. Il nous faut hélas comprendre que ce patrimoine est souvent sacrifié par nous-mêmes, alors qu'en fait, nous en avons besoin. Il n'y a pas que les guerres. Rappelons-nous ce qui se passe lors de catastrophes naturelles. Les tremblements de terre, les inondations, les coulées de boue, les décrochements de pans entiers de montagnes et bien d'autres cataclysmes. Alors, me direz-vous, quel est le but de cette émission? C'est tout simplement d'essayer de comprendre comment ce patrimoine doit être perçu, apprécié et préservé. Pour cela, j'appuierai notre réflexion sur trois rencontres qui seront à même de faire comprendre comment ils vivent le patrimoine. Pour ce premier témoignage, nous sommes accueillis par Jean-François Cotin qui... Mais il va plutôt se présenter lui-même.
Je suis Jean-François Cotin, le nouveau président élu de la Maison régionale des arts de la table à Arnay-le-Duc. Alors, la Maison régionale des arts de la table d'Arnay-le-Duc, c'est une institution qui date environ de 1980 et qui essaye de promouvoir chaque année donc les arts de la table avec une exposition de mai à novembre. Et je crois que les auditrices et les auditeurs ont déjà entendu parler de cette structure. Je voudrais parler du patrimoine en essayant peut-être d'élargir, sur la base de mon expérience, l'importance du patrimoine non seulement en France mais dans d'autres pays. J'ai eu l'occasion, du fait de mon métier, de travailler de nombreuses années dans un pays que vous avez évoqué, qui est l'Afghanistan. Entre 1996 et 2001, un nouveau régime s'est établi, c'était le premier règne des talibans, dont on reparle beaucoup maintenant depuis août 2021. Les talibans de l'époque ont décidé, parce que c'était contraire à leur vision du monde, de détruire un patrimoine mondial qui existait en Afghanistan depuis le 9e siècle, qui étaient les grands bouddhas de Bamiyan, qui est une ville au centre de l'Afghanistan. L'Afghanistan a une période pré-islamique bouddhiste très importante, et donc à cette période-là ont été construits dans des falaises deux grands bouddhas, un bouddha qui faisait 45 mètres et un autre qui faisait 33 mètres. Certains régimes, c'était le cas donc du régime taliban de l'époque, ont estimé qu'il fallait effacer de la mémoire de l'Afghanistan, effacer du patrimoine de l'Afghanistan ces bouddhas qui représentaient des idoles qui ne correspondaient absolument pas à leur vision des choses. Effacer de la mémoire collective, de la mémoire patrimoniale, une certaine histoire du pays. Et c'est une des méthodes utilisées par un certain nombre de régimes pour réécrire l'histoire, réécrire le récit national. Donc dans le cas présent, on réécrivait le récit national afghan en effaçant les périodes pré-islamiques. Les bouddhas étaient un magnifique symbole, justement, de cette période pré-islamique, et il fallait l'effacer. Donc on les a détruits. Donc ça a été un trauma pour la population afghane, et tout particulièrement pour la population de la région du centre de l'Afghanistan, pour lequel ces Bouddhas faisaient partie de leur identité.
Faire disparaître ces Bouddhas, c'est vouloir faire disparaître quasiment un peuple.
En tout cas, c'est faire disparaître une partie de la mémoire du peuple, certainement, oui.
Vous pourriez faire un parallèle avec la période des Khmers Rouges ?
On peut faire un parallèle avec les Khmers Rouges d'une certaine manière. Pas complètement, parce que j'ai été en poste au Cambodge. Et là, en fait, on a, par exemple, les fameux temples de Angkor Wat. Les Khmers Rouges, je ne les ai pas vraiment détruits. Ça ne les intéressait pas. Ils étaient beaucoup plus intéressés par la mémoire humaine, j'allais dire. C'est les intellectuels qu'ils ont détruits au Cambodge. C'est l'humain qu'ils ont détruit au Cambodge. Le leitmotiv de Pol Pot de l'époque, c'était « J'ai besoin seulement d'un million de Cambodgiens pour reconstruire un nouveau Cambodge, un nouveau homme cambodgien. » Les Khmer Rouges étaient aussi assez fiers de l'empire Khmer qui représentait, là aussi dans le récit national, quelque chose de très important. En revanche, le nouveau maître du Cambodge, ou en tout cas maintenant c'est son fils, mais a au contraire remis sur le devant de la scène le site d'Angkor Wat pour remettre en avant la splendeur du Cambodge et la grandeur du Cambodge. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de voir comment les différents régimes essayent d'utiliser le patrimoine à des fins politiques, en fait, qui leur sont propres. On a ça aussi, vous le mentionnez en introduction, actuellement en Russie, c'est très très clair. Hein. Et je pense que ce qui est important pour nous ici, hein, en France, à notre très modeste niveau de la Maison régionale des arts de la table, c'est de pouvoir aussi conserver la mémoire, de mettre en avant un patrimoine sur la gastronomie très riche et qui appartient aux gens. Ça appartient à la ville d'Arnay-le-Duc, ça appartient au territoire d'Arnay-le-Duc, ça appartient à la région Bourgogne-Franche-Comté. Ça fait partie de notre patrimoine. Et c'est ça, je pense, qui est extrêmement important de conserver à tout un tas de niveaux de tous ces petits musées, toutes ces petites initiatives privées ou associatives qu'il faut mettre en valeur, qu'il faut soutenir, parce que ça permet comme ça de distiller tout ce patrimoine à un niveau extrêmement fin, à un niveau très granulaire, j'allais dire, au sein de la population.
Merci Jean-François. Vous avez très bien illustré nos liens avec nos patrimoines si l'on veut avoir un attachement à notre société. Je vous souhaite une pleine réussite dans votre responsabilité de président des arts de la table à Arnay-le-Duc, fortement tourné vers la transmission de toute notre culture, comme vous nous l'avez si bien dit. Nous laissons maintenant Arnay-le-Duc pour nous diriger vers Velay-Méchevannes, où nous rencontrons Rémi Rougeol, président du Conservatoire de la Machine Agricole. Merci Rémi de nous recevoir dans votre incroyable musée passionnant, diversifié, très didactique. Avec vous, nous allons parler du patrimoine. Celui que vous présentez en se posant la question, si tout ce patrimoine disparaissait, qu'en serait-il de notre quotidien ?
Bonjour Gérard. Pour moi, le patrimoine est ce que nos anciens ont pu nous léguer au fil des ans. C'est leur travail, leur sueur, leur façon de faire. Si on n'avait plus ce patrimoine, on n'aurait plus de mémoire, tout simplement. Je prends le cas de simples machines que nous avons, des tracteurs. Un tracteur, la base, ce sont des roues, un moteur, une boîte à vitesse, un volant. Si on compare avec ceux d'aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a juste la puissance et le confort. Cette évolution, elle est due à nos anciens qui ont travaillé et qui ont fourni une expérience qu'on ne peut acquérir du jour au lendemain. Donc, il y a un savoir-faire, non seulement le savoir-faire, mais l'évolution obligatoire. Ça, on va à chaque fois améliorer, puisque l'homme a toujours voulu améliorer sa façon de travailler pour moins se compliquer la vie ou du moins être moins pénible.
Et s'il n'y avait plus tout cela ?
Alors, si vraiment on supprime tout, si on n'a plus du tout de mémoire, il faut repartir de zéro. On va dire qu'on va repartir pas à l'homme de Cro-Magnon, mais pas loin, quoi. Il y a quand même des restes de mécanique qui existent, mais si ça n'était plus le cas, il n'y aurait plus cette mémoire. On aurait tout serait à revoir depuis le début, quoi.
Après avoir échangé avec Jean-François Cotin, président de la Maison des Arts de la Table d'Arnay-le-Duc, nous sommes maintenant à Velay-Méchevannes, où nous rencontrons Rémi Rougeol, président du musée agricole.
Dans toute cette exposition, qu'est-ce qui permet la transmission, puisque vous dites, le patrimoine, c'est passer aux autres toute la connaissance qu'on a pu acquérir
Je dirais que c'est un peu comme un héritage. Mais moi, je ne me sens pas propriétaire du matériel qui est exposé. Je me sens conservateur, on va dire, et surtout d'expliquer aux jeunes générations, de montrer avec quoi l'homme a commencé à travailler, même si on n'a pas les premiers outils ici. On commence, on va dire, vers 1800 et quelques. Donc il y a quand même une évolution mécanique qui fait qu'on peut suivre petit à petit l'évolution. Mon rôle, c'est de conserver aussi bien le matériel que la documentation, savoir-faire, peut-être pas, parce que ce n'est pas palpable, quoi. Mais en montrant ce que nos anciens ont fait, permet de faire comprendre à tous ceux qui vont arriver après nous ce que nos anciens ont vécu, ont dû être ingénieux aussi pour créer tout ce matériel. Le moindre matériel, pour moi, a une valeur, pas une valeur pécuniaire, mais une valeur des années du travail fourni.
Vous faites quasiment une revue de l'ère industrielle dans le monde agricole, c'est pas un peu ça ?
C'est tout à fait ça. Il y a une évolution que je n'ai pas connue, j'ai pas connu tout ça. J'en ai connu une partie, mais il y a toute une partie avant qui était essentielle pour arriver à notre période.
Les vieux socs de charrue, ça n'aurait pas existé, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire ça ?
Oui, je pense. On n'aurait pas ces machines modernes qu'on a actuellement, puisqu'il a fallu commencer par du bricolage pour arriver petit à petit à moderniser, à rendre le travail plus simple et puis plus automatique.
En visitant le musée, j'ai eu le sentiment que ce n'est pas un retour en arrière, c'est une assimilation de tout ce qui a été créé.
C'est tout à fait ça. Il a bien fallu commencer par un petit bricolage. On va prendre le cas d'une scie pour lui faire des dents, pour commencer à scier un morceau de bois. Et puis au fil des ans, on met un bâti après, on commence à mettre un entraînement, ça se modernise. Mais il faut quand même qu'il y ait une étincelle d'invention de la part de l'homme pour faire ça.
Merci Rémi. On pourrait parler encore très longtemps, car vos présentations vont du soc de charrue à l'automobile, en passant par une exposition étonnante de tracteurs et de machines à coudre. En tout cas, nous avons bien compris qu'il n'y a pas de patrimoine s'il n'y a pas de société, et il y a encore moins de société s'il n'y a pas de patrimoine.
Merci Rémi, et je vous souhaite une bonne fin de journée, et à très bientôt.
Merci Gérard.
Nous avons quitté Volhem, et après un périple très agréable, nous arrivons à Ornans, très jolie petite ville du Doubs, bien évidemment célèbre par son peintre Gustave Courbet, mais également par ses constructions, son habitat, sa rivière la Loue. Tout cela me faisant penser, allez je me lance, à un petit Venise franc-comtois. Nous y rencontrons Isabelle Guillaume, maire de la ville d'Ornans. Merci Isabelle de nous recevoir dans votre belle commune pour parler du patrimoine que vous devez non seulement entretenir, mais aussi préserver pour les générations présentes et futures, que ce soit les habitants, mais aussi tous ceux qui viennent découvrir votre ville.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans notre belle ville d'Ornans pour parler du patrimoine. Nous, on a beaucoup de patrimoine à Ornans, qu'il s'agisse du patrimoine naturel, avec nos sentiers de randonnée, nos magnifiques belvédères, et puis notre patrimoine bâti, parce qu'on a des maisons nichées au bord de la Loue qui font la renommée d'Ornans, qu'on appelle effectivement la petite Venise du Doubs. On a un patrimoine exceptionnel. Mais un patrimoine exceptionnel, c'est vraiment très très bien, parce que ça attire et que nous, on est ravis d'habiter dans une ville aussi belle. Mais en fait, il y a aussi un petit peu des inconvénients. C'est-à-dire qu'un patrimoine, ça s'entretient. Alors quand c'est du patrimoine public, c'est quand même des budgets énormes que l'on doit mettre pour entretenir le patrimoine. Mais il y a tout le patrimoine privé. La majorité des habitants aiment cette ville et font tout pour préserver leur patrimoine. Mais malheureusement, on a le cas là sur une maison classée qui s'écroule. Et là, c'est la commune qui doit réaliser les travaux. Il faut reloger des gens. C'est un coût énorme pour une commune, une petite commune comme la nôtre, avec des budgets non extensibles, avec des budgets en plus qui sont de moins en moins, qui sont de plus en plus contraints, on va dire plutôt, pour être agréable. Donc en fait, il y a des fois où il faut faire des choix. Et en fait, ces choix, quand on nous impose d'intervenir sur un patrimoine privé, c'est 400-500 000 euros pour une commune. Ça veut dire que le reste, il va falloir qu'on attende. Et souvent, l'attente, c'est dramatique, quoi. Bon, voilà, après, heureusement, toutes les maisons ne sont pas en péril. Je veux juste vous raconter une anecdote. En fait, quand je suis élue depuis 2020, et quand j'ai été élue, nous avons fait le diagnostic des ponts. Il y a beaucoup de ponts à Ornans. Des ponts qu'on ne voit pas, qui sont dans la forêt, etc. On a 17 ponts. Et en fait, notre passerelle emblématique du centre-ville, celle qui est notre liaison piétonnière entre la rive gauche et la rive droite, en fait, cabinet qui faisait l'étude, à 22h le soir, m'appelle et me dit « Madame la maire, il faut fermer la passerelle, elle va s'écrouler. » Ben, je peux vous dire que pendant un an, je me suis bien fait disputer hein, par les habitants d'Ornans parce que on avait fermé la passerelle. En fait, c'est vraiment, enfin là, elle allait s'écrouler. Donc, on n'avait pas le choix. On a fait une consultation citoyenne. On avait un projet de passerelle qui était très, très moderne. On avait travaillé avec l'architecte des bâtiments de France de l'époque. Et une passerelle, et la passerelle comme elle est actuellement. Et on a demandé aux habitants ce qu'ils souhaitaient. Est-ce que vous voulez cette passerelle très moderne ? Alors, en fait, c'était une passerelle moderne et qui pouvait avoir se lever quand il y avait des crues, etc. Donc, ce qui existe à Strasbourg déjà. Et on a proposé ça. Et on a proposé aussi la reconstruction à l'identique. Et en fait, les habitants ont voté à 80% pour la passerelle à l'identique. Alors, elle a été un petit peu modernisée parce que, voilà, on n'avait pas les mêmes matériaux qu'avant, etc. Mais en tout cas, et maintenant, elle est très, très solide. La première passerelle, en fait, elle était un peu plus moderne et surtout, il n'y avait plus d'escalier. Donc, en fait, on avait des mobilités douces possibles. Et bien, en fait, non. Ils ont souhaité garder les escaliers comme c'était avant et la même passerelle. Et en fait, on a refait la même passerelle que c'était avant. Et donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, que les habitants sont très attachés à leur patrimoine. Alors, bien sûr qu'on peut moderniser, effectivement. Et d'ailleurs, c'est très bien. Mais quand même, en tout cas, les Ornanais sont très attachés à leur patrimoine et ils l'ont prouvé en venant voter, mais vraiment massivement, quoi, pour garder cette passerelle à l'état d'origine.
Votre intervention conclut vraiment le propos de cette émission. Le cas que vous avez exposé est particulièrement transposable dans d'autres domaines du patrimoine. Ici, plus de ponts, plus de maisons, c'est-à-dire plus de ce patrimoine totalement quotidien, qui conduirait à une remise en cause profonde de la vie pour les habitants de votre ville, mais aussi pour tous ceux de l'extérieur qui ont besoin de ce patrimoine. En fait, vous nous expliquez que c'est une remise en cause profonde du fonctionnement d'une société. Merci Isabelle, merci Madame la maire, pour ce témoignage particulièrement éloquent qui illustre parfaitement notre propos de cette émission. Je vous souhaite de très nombreux visiteurs lors de ces prochaines journées du patrimoine de pays qui ne peuvent que bien s'annoncer en regard de la richesse de votre patrimoine. C'est le mag se termine. Je souhaite à tous les auditeurs de poursuivre leur journée et leur soirée en écoutant leur radio préférée. Je veux bien sûr parler ici de RCF 21. Au revoir et à très bientôt.